Bonjour Anna Clara.
Bonjour Séverine.
Alors, on va mener l'entretien suite à une semaine d'observation que on a réalisée à Palmela la semaine dernière. On est le vendredi 3 mai et l'observation s'est terminée le samedi 27 avril. Donc une semaine s'est écoulée au moment où tu prends la parole sur ce projet. Est-ce que tu peux dans un premier temps te présenter s'il te plaît ?
Voilà, donc je vais essayer aussi de réaviver ma mémoire. Alors, tout d'abord, un petit mot sur d'où je viens et qu'est-ce que je fais. Alors, Anna Clara Santos, je suis prof à l'Université d'Algarve et je suis chercheuse à l'Université de Lisbonne, au Centre d'études de théâtre. Et je suis rentrée, c'est comme ça qu'on est rentrée dans l'équipe Argos. Avec Maria João Brilhante, l'équipe portugaise qui coordonne l'équipe, enfin l'équipe portugaise, voilà. Toute ma formation a été faite à Paris 3 et autour des études théâtrales et j'ai longtemps travaillé sur la réception de la dramaturgie française au Portugal et ce n'est que depuis une dizaine d'années que je me consacre vraiment à étudier la scène contemporaine. Et donc c'est un grand défi de découvrir un peu les études de génétique et de travailler sur les processus de création. Donc je suis ravie d'être là et de faire partie de l'équipage Argos.
Le processus que l'on a observé du théâtre Ubuntu à Palmela, Purgatorio, est-ce que tu peux nous raconter les liens que tu as avec cette équipe artistique ?
Oui, tout à fait. Alors, moi, j'ai connu en fait João Brit un peu plus en 2009, lorsque j'ai organisé à l'Université de Lisbonne le premier colloque dans le domaine de la génétique théâtrale. Et à cette époque, cette année-là, on l'a invité à faire la dernière intervention du colloque, et qui vient d'ailleurs d'être publiée dans cette petite collection que je dirige chez Le Manuscrit. Et à ce moment-là, il a accepté de faire un peu un parcours, de présenter son parcours de sa longue carrière jusqu'en 2009. Et l'objectif était qu'il parle surtout de cette manière très particulière qui lui est propre d'adapter des textes, que ce soit des textes poétiques ou des textes narratifs, à la scène. Hein. Lui, il ne veut pas parler, il ne veut pas qu'on parle de ça d'un point de vue un peu plus académique, parce que nous, à l'académie, on adopte surtout le terme adaptation, et lui, il nous dit souvent que ce n'est pas une adaptation qu'il fait, c'est une version au milieu de tant d'autres. Et donc, ce premier contact a été très important pour moi parce que j'ai été très intéressée par son travail et la façon dont il le présentait. Et il y a 2 ans, l'occasion s'est présentée de suivre son parcours, son processus de création qui était antérieur à celui-là puisqu'il fait la trilogie, trilogie de Dante, de la Comédie humaine. Et j'ai pu suivre la Divine Comédie. Et j'ai pu suivre le premier processus, l'enfer, qui était un processus complètement différent. Et donc, c'est vrai que dans ce processus de purgatoire, j'ai quand même, même si je ne le veux pas, une référence par rapport à ce qui a précédé, qui était le processus de l'enfer.
Je vais faire un petit pas de côté, mais ça me semble nécessaire pour le projet. En quoi ce processus-là que tu as observé avec Purgatorio est différent de Inferno ?
Bon, déjà, comme je le disais à un certain moment dans la session de clôture qu'on a fait à Palmela, je trouve que la position du directeur, du metteur en scène, de João Brit, a un peu changé. Il s'est déplacé en tant que metteur en scène, je trouve. Il a beaucoup plus dirigé dans le processus de l'enfer. Là, je trouve qu'il s'est un peu effacé Derrière les par exemple derrière Julian Pignoux et Miguel Jesus, qui cette fois-ci ont eu un rôle plus important dans la conception même du processus et de la conception artistique. Parce que, par exemple, déjà la première grande différence, c'est que dans l'enfer, c'est lui qui a fait le travail d'écriture de la dramaturgie, donc du passage du texte à l'écriture théâtrale. Et là, il a demandé à Miguel Jesus de le faire. Donc là, déjà, c'est un écart énorme. Et je pense qu'il prépare un peu aussi la suite, hein. Et qu'il veut aussi que les plus jeunes prennent le relais. C'est l'impression que j'ai par rapport au passage entre ces deux processus. Bon, ensuite, il y a tout un tas de différences parce que les conditions de production étaient différentes. Pour l'Enfer, il travaillait avec le Théâtre National, avec une équipe très diversifiée puisqu'il avait des acteurs professionnels. Donc, avec une longue carrière, ceux du Théâtre National. Puis, les acteurs à lui, même à sa troupe du bando, qui étaient là nombreux. Et puis une troisième catégorie, celle des stagiaires, qui avaient été formés à l'école supérieure de théâtre et cinéma, où lui-même était professeur. Enfin, il ne l'était plus, mais il l'avait été. Et donc, il y avait ces trois genres d'acteurs qui venaient de formations différentes. Et ça a été un processus très intéressant parce qu'il devait gérer pas mal de choses en dirigeant ce groupe-là. Pour le purgatoire, cette fois-ci, c'est très différent puisqu'il n'a qu'un seul acteur. Il y a Rita, qui est la seule actrice du band qui intervient. Et déjà, la différence est énorme parce qu'entre l'Enfer, il avait une vingtaine d'acteurs et là, il en a seulement trois. Mais par contre, il a quelque chose qu'il n'avait pas dans l'Enfer, qui est un chœur qui est énorme, avec plus d'une quarantaine de personnes à gérer. Donc les défis sont différents.
Un
Donc
cœur
les deux
amateur.
processus sont très différents.
Un cœur amateur.
Voilà, un chœur amateur, oui, de Setúbal.
Et l'observation qu'on a menée dans le cadre du projet a duré 6 jours. Est-ce que tu peux témoigner de ce que tu as vécu, de ce que tu as observé, l'évolution du travail au cours de la semaine, les temps forts et nous communiquer les moments importants pour toi?
Très bien. Moi, je pense que j'ai ressenti un peu la même manière de faire qu'on avait connue et qui est propre au band, qui est de construire un collectif. Et quand ils parlent de collectif, ils ne parlent pas uniquement de leur collectif à eux en tant qu'artistes, mais d'intégrer aussi une communauté qui vient de l'extérieur. Bon, cette fois-ci, c'était nous. La communauté Argos, voilà un avion qui passe au-dessus encore, mais d'intégrer, bah, il l'avait déjà fait pendant l'enfer, parce que parfois il ouvrait les portes à des observateurs et des gens qui venaient de l'extérieur. Tu as dû comprendre que au Bando, là à Valdeberghi, il y a un vent qui passe, hein, et surtout le samedi, il y a beaucoup de gens qui rentrent dans le théâtre, hein. Ils ont les confréries, ils ont d'autres groupes qu'ils accueillent. Donc c'est vraiment, on est dans cet esprit communautaire de partage d'expérience. Donc ça, ce qui était important pour moi, c'était surtout de voir comment ils fabriquaient cette notion de collectif, collectif dans le travail artistique, mais aussi collectif en nous intégrant aussi en tant que communauté qui fait partie de ce collectif. Et puis, je pense que pour moi, il y a deux moments qui m'ont marqué plutôt que d'autres, hein, on sélectionne tout le temps, mais le fait qu'on soit là et qu'on puisse observer le travail des acteurs et la façon. Parce qu'on est quand même dans une. Même si on est à un mois et demi de la première du spectacle, les acteurs, eux, ils sont encore dans un terrain de recherche. Ils recherchent encore, ils font des recherches, ils essayent de trouver encore un chemin pour construire leur personnage. Et je pense que c'est surtout ça qui était très intéressant à l'observation, de voir ces expérimentations aussi des acteurs dans leur recherche de leur travail. Donc, c'est vrai que ce qu'on a vu vendredi matin, ce que Nelson Monfort, l'acteur qui joue Dante, nous a présenté suite à l'expérience qu'il a fait la veille au moment du cortège du 25 avril à Lisbonne, je pense que c'était vraiment un grand moment et qu'on a pu apprendre aussi à voir et à vivre cette créativité d'un acteur qui est absorbé par des expériences du vécu, ce que João appelle dans sa méthode de travail, je vivais un siège, c'est-à-dire il met les acteurs dans des situations d'expérience un peu inédites, un peu surprenantes, et il leur laisse faire et il attend que l'acteur puisse extraire de cette vivance et de cette expérience des choses qui vont peut-être nourrir sa composition, sa partition, hein, comme il aime bien l'appeler. Donc je pense que ce moment-là a été très important pour moi. J'ai bien aimé. Et puis, dans le travail de Joan, ce que j'aime beaucoup et ce qu'il fait tout le temps, c'est le partage en collectif. Ça veut dire le fait de mettre tout le monde autour de la table, de faire un grand cercle et de donner la parole et de se nourrir aussi. Je pense qu'il a eu besoin de se nourrir aussi de notre vision, de notre façon de voir les choses. Et je pense que ce retour était très important pour lui, qu'il l'attendait en fait.
Alors, dans les contraintes qu'on a posées au cours de cette expérimentation et qui vont suivre pendant tout le projet, je vais attendre. Il y avait la nécessité d'annoter le travail par un moyen que chacun a choisi. On avait les rocketbooks, on avait d'autres possibilités photographiques, sonores, audiovisuelles, le dessin aussi. Qu'est-ce que tu as privilégié comme annotation et comment tu t'es senti, toi, dans cette contrainte de partage, en fait, de notes?
Alors, je vais laisser passer le camion. OK. En fait, je me suis obligée moi-même à modifier ma façon de faire et ma façon d'annoter. Pendant l'enfer, j'avais un petit carnet que j'emmenais tout le temps et toutes les annotations sont dans ce petit carnet. Et je prenais des photos. Parfois, j'enregistrais un peu. Mais là, je me suis mise comme contrainte de prendre Rocketbook et de l'utiliser seulement. Et c'est ce que j'ai fait. En fait, je pense que on a encore beaucoup de questions à se poser sur la notation, sur la façon de créer des codes pour aller vite, des codifications, parce que on a tendance à vouloir être très exhaustif et à vouloir capter toute l'information, mais cela est impossible, on le comprend très vite. Donc, il faut très vite qu'on choisisse un point de vue. Et peut-être qu'en cours de route, on change de point de vue. Mais c'est ça le défi. Donc, je pense que ça m'a servi plutôt à me questionner sur ma façon de travailler et peut-être à me poser encore des questions plutôt qu'à être très centré sur la façon d'annoter tout pour la mémoire future. parce que c'est ce que je faisais pendant l'enfer. Mais là, j'étais dans une dimension différente parce que pour l'enfer, j'étais pas encore familiarisée avec le travail du bando et j'avais besoin de m'approprier un certain langage qui était le leur. Alors que maintenant, pour le purgatoire, quand il utilisait les mots spécifiques de son langage, du langage à eux, je le notais tout simplement parce que j'avais déjà le concept, donc ça allait beaucoup plus vite. Voilà, donc.
Et ces notes-là que tu as prises au cours de la semaine, est-ce que aujourd'hui tu penses que tu vas en partager l'intégralité ou tu as le sentiment que tu vas vouloir sélectionner des passages?
Je pense que je vais devoir sélectionner parce que en voulant faire vite, très très vite, on tombe dans l'illisible. C'est peut-être lisible pour moi, mais ce n'est pas lisible pour les autres parce que c'est trop codifié. Je me suis un peu retrouvée dans la même situation où j'étais quand j'étais élève de fac, à la fac, où je voulais prendre des notes très vite pour ne pas perdre certains morceaux de cours magistraux. Et à force de faire ça à certains endroits, eh ben, ça devient illisible parce qu'on coupe des mots, parce qu'on fait presque, ça devient une écriture presque schématique. Donc je pense que ces morceaux-là, je vais devoir les couper parce que ça ne va pas apporter grand-chose aux autres.
Quelle idée, quel ressenti tu t'es fait de la place que tu avais au sein de cette communauté d'observateurs multiples réunis pendant une semaine? Comment tu as vécu ça?
Moi, je me suis complètement effacée. J'ai oublié que j'étais chercheuse et j'ai voulu faire table rase de ce rôle-là que j'ai quand même dans Argos. Mais lorsque j'étais là, dans la position d'observation avec les autres, ce qui m'intéressait le plus, c'est faire partie de l'observation et ne pas avoir déjà les acquis d'un chercheur et ne pas poser les questions que j'aurais posées en tant que chercheur. Pour moi, il était plus évident, était plus logique que je me posais des questions que je me serais posées en tant que spectatrice de ce travail. Pas de ce spectacle parce que c'est pas encore le spectacle, mais de ce processus. Qu'est-ce que je pouvais questionner? Quelles étaient les réponses que je pouvais déjà trouver? Donc j'étais là dans une symbiose toujours entre les questions soulevées et les réponses qui faisaient sens pour moi à ce moment-là.
Oui. On a un horizon d'attente à l'issue d'une semaine d'observation. Est-ce que là, toi, tu es en capacité d'imaginer la forme que pourra prendre le spectacle, donc à certains aspects, évidemment. Et bon, alors je sais que tu vas voir le spectacle final, mais donc la
Eh oui,
question est moins
j'espère bien.
opérante pour toi. Mais pour toi, est-ce que c'est une nécessité, dans le cadre de ce projet que de voir la forme finale à laquelle nous assistons ponctuellement en cours de préparation?
Là, c'est une grande question. Parce que je me dis que il y a deux grandes dimensions qu'on n'est peut-être pas encore capable ou de séparer et qu'il faudrait peut-être et que peut-être Cargus, le projet, nous aidera à séparer les eaux. Parce que on a tendance le plus souvent à associer processus à spectacle, comme si c'était une ligne un trajet qu'on faisait, que ça allait aboutir au spectacle. Bien sûr que pour les artistes, c'est ça, mais est-ce que pour l'observateur, est-ce qu'il ne faut pas les séparer et les comprendre comme deux réalités complètement différentes et qui ne se... Parce que j'ai vu, par exemple, pour l'enfer, ça a été un processus beaucoup plus riche que le résultat final qu'ils ont présenté aux spectateurs. Il y a beaucoup de choses qui se sont perdues. Alors, énormément de choses, d'hypothèses de travail qu'ils avaient mis en chemin, en route, et qui se sont perdues, qui n'ont pas été absorbées, qui n'ont pas été après intégrées dans le spectacle, mais qui pour eux étaient un travail très riche. en tant que travail artistique, qui n'est pas perdu pour eux, hein, mais auquel le spectateur n'aura jamais accès. Donc ici, je pense que c'est pareil, comme dans tout processus. Mais je pense qu'on a toujours tendance à vouloir, quand on observe, à vouloir ensuite retrouver des traces par rapport à ce que nous, on a observé. Comme si on voulait que certains morceaux soient là, tels quels, dans le spectacle lui-même. Alors que il faut bien se dire que c'est deux modalités de travail différentes et que bien sûr qu'on est très motivé pour aller voir le spectacle et de regarder comment ils se sont appropriés certaines techniques ou certaines façons de faire et comment ils ont intégré cela, quelles sont les solutions qu'ensuite ils ont apportées. Mais je pense que notre façon de lire ces deux moments différents, le processus et le spectacle, je pense que c'est par l'observation et par ce genre de projet qu'on atteindra peut-être une façon de faire, même une méthode plus ajustée à l'avenir. C'est comme, par exemple, pour la question du spectateur et de l'observateur. Par exemple, à un certain moment, ils avaient dit, ah bah, surtout Nelson, il était ravi d'avoir des gens dans la salle qui voyaient un peu son travail, même s'il savait qu'il travaillait sur quelque chose de fragile encore. Mais il nous disait, voilà, c'est important parce que finalement, j'ai quelqu'un qui me voit et qui peut me renvoyer mon image parce que je travaille et je ne me vois pas. J'ai aucune image sur ce que je rends au public, au spectateur, à l'observateur. Et je pense que là aussi, il va falloir travailler sur ces notions parce que observateur et spectateur sont pas sur le même plan. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être observateur? Qu'est-ce que c'est qu'être spectateur? Quand est-ce qu'on devient vraiment spectateur? Quand est-ce qu'on cesse d'être observateur? Qu'on passe déjà à la position du spectateur, même pendant un processus, parce on entre dans une autre dimension. Voilà, donc j'ai hâte de voir le spectacle, mais je crois que je lirai plutôt ce spectacle, non pas en cherchant à voir ce qui a été, ce que je peux retrouver comme op chose observée dans le processus, mais plutôt ce que je peux retrouver comme des façons de faire à Obando qui sont particulières à sa façon de faire et à certains concepts, à certaines questions discutées. Et je serais plutôt intéressée à voir quelles sont les solutions qu'ils ont trouvées à la fin du processus pour rendre cette visibilité, cette présence aux yeux du spectateur.
Merci beaucoup, Anna Clara.
Merci à toi.